Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être ici. Nous allons vous présenter une rencontre autour de trois auteurs qui sont des auteurs qui publient sur le web et en papier. On a longuement hésité sur les termes qui allaient définir cette conférence. On avait imaginé plein de choses qui nous ont fait tressaillir. On avait imaginé au début d'appeler ça les blogueuses. Le problème, c'est que les blogs, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis 7 à 8 ans. Et on s'est dit qu'un blog, finalement, c'était un outil pour se faire connaître, c'était un outil de création, c'était un support. Et que quand vous aviez un auteur de bande dessinée qui avait un book pour présenter son travail, on ne l'appelait pas un booker. Ou que quand on avait un auteur de BD qui choisissait le livre comme support pour créer sa bande dessinée, on l'appelait pas un livreur. Donc on n'allait pas résumer ces auteurs au fait d'être blogueur. Alors on avait trouvé pire, on avait trouvé les blogueuses girly. Et on en parlera tout à l'heure parce que ça a le don de les faire réagir. Puis finalement, on s'est dit que c'était avant tout des auteurs de bande dessinée et qu'ils avaient un gros avantage sur d'autres, c'est qu'ils s'intéressaient à tous les supports et c'est ce dont on va parler ce soir. Alors je tiens à remercier la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou et le Festival d'Angoulême de nous avoir conviés. Donc autour de la table, Pénélope Bagieu. Je ne vais pas faire les bios tout de suite parce qu'on va parler de leur vie ce soir. Pénélope Bagieu qui doit partir à 20h, 20h10, limite après se transforme en citrouille. Julie Marot qui doit partir à 20h30, 21h elle court. Et Lucille Gomez qui reste avec moi jusqu'à 2h du matin. Voilà. Je vais tutoyer les invités de ce soir parce qu'il serait honteux de faire croire qu'on vous voit dans la vraie vie, on se connaît bien. Il y a deux marraines du Festival des blogs BD que j'organise autour de cette table, peut-être une future. Et j'ai l'occasion de travailler avec deux d'entre elles. Donc moi, je suis Yannick Lejeune, j'ai un métier très sérieux et pas du tout drôle dans les nouvelles technologies, ce qui touche un petit peu le domaine des blogs. Puis j'ai un métier très sérieux mais un peu plus drôle dans la bande dessinée où je suis chroniqueur et éditeur de bande dessinée. Et de manière pas du tout professionnelle puisque bénévole, j'organise un festival qui est le Festival des blogs BD, d'où l'invitation que j'ai eue ce soir à animer cette rencontre. Alors pour commencer, on va faire assez scolaire, on va commencer par leur demander de nous raconter leur vie. Il se trouve que les trois auteurs qu'on a là ce soir ont à peu près le même démarrage de vie. On va commencer par Pénélope. Pénélope, grande question, qu'as-tu fait comme étude et pourquoi as-tu fait de la BD ?
J'ai fait...
c'est à voir.
J'aime bien le micro. J'ai fait l'ENSAD, l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris. J'y ai fait de l'animation.
Et pourquoi t'as pas continué à faire de l'animation ?
Et je n'ai pas continué à faire de l'animation parce que l'animation, c'est très long et qu'on passe une journée à faire une seconde de film. Donc, voilà. Et en plus, on travaille avec des gens, tout ce que j'aime, travailler lentement et avec des gens. Donc voilà, je me suis dit que ça, déjà, c'était sûr que je ne ferais pas ça. Et puis, en fait, j'ai fait de l'illustration et c'est devenu mon métier. Et donc, j'ai fait de l'illustration de pub, ce que je fais toujours. Et parallèlement, par la suite, j'ai fait de la BD... sur un malentendu, plus que... Voilà.
Et quand tu étais petite, tu voulais faire de la bande dessinée ?
Non, pas du tout. Je voulais me mettre dans la rue avec une table et vendre des dessins aux gens, m'a dit ma mère. Voilà.
Tu as fait un film d'animation.
Oui.
Qui a eu des prix.
Oh oui.
Et tu ne veux pas le montrer.
Mais non, je ne veux pas du tout.
Pourtant, j'ai insisté pour qu'elle
nous
le montre.
Et pourtant, je l'ai ce soir.
Eh oui, surprise.
Non. C'est pas que je ne veux pas le montrer, mais ce n'est pas non plus le film du siècle, quoi.
Bon, en gros, tu l'assumes plus.
Non, c'est pas que je l'assume plus, c'est que est-ce que je te demande de me sortir les cendriers en pâte à sel que t'as fait à ta mère quand
tu
avais 9 ans ?
Comme ils sont beaux.
Tu vois, c'est
un
ça.
Un collier en nouilles de toute beauté.
C'est que du coup, il y a une espèce de montée de ce... comme si c'était un truc super, alors que c'est quand
mais
même un film
a eu
de diplôme.
Des prix.
Oui, mais il a eu des prix du public et des trucs comme ça. C'est pas non plus le. Non, je sais que tu mens parce qu'il y a une copie qui est chez moi. C'est tout. Donc normalement, c'est bon. Voilà. C'est un film de diplôme, quoi. C'est pas non plus...
Alors, Julie, toi, quand tu étais petite, tu ne voulais pas te mettre dans la rue avec des dessins. Tu voulais être vétérinaire ou égyptologue.
Mais en fait, je faisais déjà de la BD sans me dire que je pourrais vraiment en faire un métier.
Ouais, donc tu écrivais des histoires.
J'ai fait mon premier album à 8 ans. Et à côté de ça, je tenais moi-même des journaux sur
un
effet...
C'est un album qui parlait de quoi ?
Tout ce que je connaissais, en fait, c'était les aventures d'Hervé. Les aventures d'Astérix le Gaulois. Donc, j'avais fait les aventures d'Arvéris l'Égyptien. Voilà. Donc, ça parlait d'un gamin dans l'Égypte ancienne.
Ça s'est bien vendu ?
À la papeterie où ma mère le faisait relier, ça avait grand succès. Il y avait un seul exemplaire, je pouvais difficilement le vendre.
Et ensuite, tu es parti faire des arts appliqués, et là, tu t'es dit, c'est pas
exactement ce que je voulais. Oui, tout de suite, à 11 ans derrière.
Voilà, c'est ça, à 9 ans à peu près. Après le bac, les arts appliqués, tu t'es dit, c'est pas exactement ce que je veux faire.
En fait, c'était vraiment très porté sur des questions qui m'intéressaient pas du tout, de marketing, par exemple. Et, en fait, j'avais l'impression que c'était vraiment des arts plastiques sans la notion de poésie. Et donc, moi, j'avais besoin vraiment de retrouver la création individuelle qui m'était propre. Et c'est vrai que ça ne m'a pas aidée pour ça, les arts appliqués.
On va perdre l'animateur.
Donc, je suis montée à Bruxelles faire Saint-Luc en bande dessinée.
Et alors là, c'était bien ?
Là, pour le coup, j'ai évolué en un an en tant qu'en 3 ans en art appliqué. Donc, j'ai vu la différence quand même. Je faisais que ça, de la BD.
Lucille, quand tu étais petite, tu voulais être ?
Je voulais être exploratrice. Mais c'est vrai que j'aimais déjà dessiner et surtout raconter des histoires. Je le faisais déjà. Et puis... je montrais mes dessins à mes parents qui me disaient « c'est bien, ma chérie, c'est bien ». Et puis un jour, ils m'ont dit « maintenant, t'arrêtes tes conneries et puis tu fais des vraies études ». Donc j'ai fait un bac général, j'ai fait une prépa pour Normale Sup. Et après, je suis rentrée à Olivier de Serres, mais avec cette idée enfouie que bon, faire de la bande dessinée ou vivre du dessin un peu en général, c'était pas très réaliste. Donc j'ai fait des études pour devenir graphiste. Un petit peu comme Julie, j'ai pas trouvé ça très très rigolo, mais quand même très intéressant. J'ai rencontré des profs aussi très chouettes, qui n'étaient pas étrangers au monde de la bande dessinée et qui donc me frustraient pas de ce point de vue-là. Comme Monsieur Chosy, par exemple, qui est devenu un ami depuis. Et puis voilà, donc pour mes études, c'était ça. Après les études, j'ai passé un BTS communication visuelle. Je ne voulais pas bosser en agence de pub. J'avais
tu
horreur de ça.
Tu ne voulais pas bosser avec des gens non plus
Si, bosser avec des gens, moi, peut-être contrairement à Pénob, je ne sais pas, mais ça me manque beaucoup dans le travail d'auteur de BD. C'est un truc qui me manque. Mais elle travaille en atelier, donc ce n'est pas pareil. Non, je voulais pas bosser dans une agence de pub ou faire du graphisme de cette manière-là. Et donc j'étais en freelance, mais à côté je faisais des milliers de petits boulots pour gagner 3 sous, etc. Et puis finalement la bande dessinée c'était un loisir et c'est devenu un métier après quoi.
Et alors donc ce qui est intéressant chez Lucille, c'est qu'à ce moment-là, elle se lance dans l'idée de faire un fanzine, mais en pionnière, puisque bien avant les blogs, elle se dit je vais le faire sur Internet. Avec une camarade.
Mais en fait, c'était à partir du fait que même si à Olivier de Serres, on était en art appliqué, on avait des dessins, enfin on avait des cours de dessin. Et après les études, je faisais du graphisme et je dessinais plus. Et avec une copine comme ça, on se disait autour d'un verre un soir, mais on dessine plus, c'est nul. C'était marrant, on faisait des caricatures les uns des autres, on faisait des histoires pendant les cours de marketing, c'était rigolo, pourquoi on le fait plus, tout ça. Et donc on a cherché un prétexte pour le faire, et tout en discutant, on s'est rendu compte que dans le milieu de la BD, etc., il n'y avait que des mecs. À l'époque, on n'y avait jamais pensé, en fait. Et donc, on s'est dit, ouais, si on faisait un fanzine, mais alors, que de filles. Donc, voilà, on l'appelait dessin, des filles qui en ont, tout ça, et, parce qu'on connaissait que des filles qui dessinaient autour de nous. Quelques garçons, mais pas beaucoup. Et voilà, et comme faire un fanzine papier, c'est trop compliqué pour nous, on s'est mis sur le net, et oula, c'est vieux.
Voilà, on a ressorti les dossiers. On ne peut pas vous montrer le premier épisode des aventures de Lucille dans ce fanzine, car le premier épisode, maintenant, quand on essaye d'y accéder sur Internet, ouais. Il y a marqué ça.
Oui, voilà, donc c'était parti un peu d'une blague, et vraiment, on n'avait pas du tout conscience que ça pouvait... être une vitrine internet, et donc le fanzine s'appelait Dessin, et chaque mois on se donnait un thème, comme c'était un fanzine à cycle menstruel, il y avait un fanzine chaque mois, on se donnait un thème et on réalisait chacune dessus, et le premier mois c'était les dessins. Bon, j'ai fait ça, et puis j'ai fait une histoire sur les nichons, Et un éditeur l'a vu, m'a appelé et m'a dit, au bout d'une semaine de mise en ligne, il m'a dit, oui, j'ai vu vos seins sur Internet, si on en faisait un livre. Bon, voilà. Et du coup, c'est vrai que si j'avais dû démarcher des éditeurs, j'aurais jamais fait, ça m'aurait jamais traversé l'esprit de faire une histoire sur ça, en fait. Et ça m'a donné l'opportunité de faire un livre.
Alors juste pour vous montrer donc l'épisode 2, qui lui est encore disponible sur le net, voilà les premiers pas de Lucille sur Internet, donc bien avant les blogs, dans une sorte de webcomics, comme on appellerait ça aujourd'hui, de manière moderne.
Mais c'est marrant parce qu'on voit quand même que malgré le fait que, comme tu dis, on était pionnières sur Internet, on avait gardé le format comme si c'était un livre. Enfin, on avait gardé l'idée qu'on tourne des pages et qu'il y a une reliure au milieu. Et mine de rien, c'était quand même une façon assez old school de penser la mise en page. Et c'était pas dans l'idée de scroller pour lire. Ouais.
Et alors en fait, moi, ce qui m'a intéressé quand on a préparé cette rencontre, c'est que par rapport à l'idée que certains peuvent avoir que le blog est la porte ouverte vers l'édition, car quand on est un blogueur connu, eh bien, on finit par être édité. On a ici des auteurs qui ont été repérés dans leur blog, mais avant d'avoir des blogs à très forte visibilité. En l'occurrence, Lucille, elle était déjà publiée avant d'être blogueuse. Et justement, à ce moment-là, pendant que dessin se fait, à un moment, dessin s'arrête. Et la jeune Pénélope Bagieux qui ne suit pas.
Ah oui, je peux faire la transition le temps qu'elle se remette à niveau de la conversation. C'est que je me souviens qu'elle nous a envoyé un mail pour participer à dessin. Et puis, et on en recevait plein. Non, mais on en recevait plein, vraiment. Et je me souviens avoir rigolé à ces trucs. Et en gros, je lui ai dit, ouais, c'est bien, continue
mon petit.
Mais on arrêtait le fanzine, donc on prenait plus, on recrutait plus de nouveaux dessinateurs.
C'était trop bien.
T'avais déjà démarré ton blog, Pénélope, au ce moment-là?
Eh ben, je crois que ça faisait genre 3 semaines. Quoi.
3 semaines.
Et j'étais tombée sur dessin, je ne sais plus comment. Et je m'étais dit, mais c'est trop bien, c'est ça que j'ai envie de lire, en fait. Alors, je ne savais pas que ça existait, donc tu as raison, en fait.
Je vous ai ramené des dessins du blog de Pénélope de cette époque-là. Parce que comme ça, on verra qu'elles sont très à évoluer.
Dessiner avec la main gauche.
Et donc, à l'époque, Pénélope Bagieux négocier ses tarifs à la baisse tant bien que mal, alors qu'aujourd'hui on sait bien qu'elle fait pleurer la plupart des directeurs financiers des grandes agences.
C'est ça ton intro? Eh ben super.
Donc 3 semaines de blog, tu peux pas faire
non,
dessin.
Non, pas 3 semaines peut-être, je sais pas, plus non. Moi je sais pas.
Mais 3 mois de blog, un contact d'une attachée de presse d'un éditeur.
Oui.
Raconte-nous ça.
Qui me dit, et si on faisait un livre avec ton blog? Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on a fait.
Et à ce moment-là, ton blog n'était pas ultra connu.
Mais il avait 3 mois. Donc, voilà. Il était connu essentiellement de ma mère.
Le livre, vous l'avez peut-être vu passer, s'appelle « Ma vie est tout à fait fascinante ». Donc, ce sont des notes de blog. Et ce livre fait un carton. On peut le dire. Moi, j'ai le droit.
Bah, dis-le.
Voilà. Et encore une fois, voilà, le truc qui est un petit peu embêtant, c'est que les médias, on manque de sensationnalisme, et presque un an après, se rendent compte que, tiens, il y a une blogueuse, parce qu'ils voulaient parler des blogueurs, et qu'elle a fait un livre, et que ça a bien marché. Donc forcément, si on fait un blog, ça fait un bon livre. Et c'est pas du tout la vraie histoire, puisque quand l'éditeur t'a contacté, bah, t'étais pas très connu, et que le blog, tu l'avais pas fait non plus dans une démarche de « regardez, je vais faire un bouquin
bah, ». C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est pas pour faire la vieille, mais quand même, il n'y avait pas de bouquin tiré de blog. Donc c'était à l'époque les gens trouvaient ça malhonnête de faire un livre avec des notes de blog.
Il y en avait un qui avait été adapté, mais c'était
Frantico.
Voilà, mais c'était Frantico. Donc derrière se cachait Lewis Trondheim. C'était pas forcément le plus grand débutant que la Terre portait. Effectivement, ça n'existait pas.
Et d'ailleurs, l'éditeur qui m'a proposé de faire ça se posait pas la question de savoir si c'était une bonne idée ou pas en termes de BD, parce que c'est pas un éditeur de BD. Donc eux, ils se sont dit, on va faire un livre d'images, parce qu'eux, ils font de la littérature, donc ça va être le premier livre en couleur qu'ils aient fait. Donc ils avaient moins de problèmes d'éthique éditoriale en termes de BD que je pense un éditeur BD, c'est pour ça qu'ils se sont permis de faire ça. Et c'est aussi ce qui explique cette fab qui est quand même balbutiante, quoi. Parce que c'est vraiment, ils se sont dit, ben, en fait, moi, j'ai même pas eu mon mot à dire sur la maquette. Ils m'ont dit, ils ont choisi les notes de blog dans les 3 mois qu'il y avait. Ils ont fait un chemin de fer eux-mêmes, ils ont choisi l'ordre, ils ont choisi la typo, ils ont fait la couve, voilà. Ils m'ont dit, tiens, t'as un livre. Donc, bon, c'était.
Et alors, ça fait quoi d'avoir un livre adapté de son truc sur Internet? On est content?
Eh bien, je vais te dire, surtout, j'avais un livre avec mon nom dessus, donc ça aurait été des photos de... Bref, j'aurais trouvé ça bien quand même, quoi. Donc c'était surtout, j'étais trop contente. Il n'avait pas un an et le livre existait. Enfin, mon blog n'avait pas un an, le livre existait. Il y avait mon nom écrit sur un livre. Bon, vu que ce n'était pas mon boulot, c'était super, voilà.
Et alors, genre, Julie, elle a un petit peu la même trajectoire, puisqu'en fait, tu as commencé ton blog et 3 mois après... T'as signé ton album.
Moi, j'avais fait le blog parce que je savais pas faire un site internet. Donc, c'était le plus simple. Donc, c'était vraiment une question d'avoir une vitrine pour avoir une trace de moi sur internet pour, en effet, montrer éventuellement mon boulot.
Donc, t'avais fait du fanzine. On va montrer.
Oui.
Je vais montrer. Hop. Un fanzine qui s'appelle Ramassi et qui était un fanzine papier au démarrage.
À la base, c'était un fanzine papier qu'on faisait à Saint-Luc, en bande, voilà, en section bande dessinée, et qui est mort une fois ou deux, et qu'on a ressuscité vraiment sur Internet de cette manière-là il y a 2 ans. Et moi, j'ai commencé vraiment à être occupée à partir de ce moment-là, parce qu'il y a eu la sortie du livre.
Donc tu les as lâchés.
Oui. Non.
Tu les as lâchés quand t'es devenue une star.
Non, mais ils m'en veulent beaucoup, je sais. Bref.
Tu commences à montrer tes travaux sur ton blog.
Oui, enfin, même pas, parce qu'en fait, je commence à faire le blog BD, et moi, j'ai été très amie avec Inti et Sadre, qui sont des très grands
Sadre,
blogueurs.
Sadre, c'est un blogueur qui publie aujourd'hui sous le nom de Thomas Mathieu,
voilà.
Et qui vient de publier chez Shampoing un album qui s'appelle
Les Dragues Misères.
Merci.
Et donc, eux tenaient vraiment un blog BD à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé vraiment à découvrir tout ce système-là de narration. Et donc, en fait, j'avais juste fait un blog pour avoir vraiment une page internet de mes boulots. Et résultat, je me suis retrouvée à faire de l'autofiction comme tout le monde. Et c'était parti pour 2 ans, 3 ans. Enfin, j'y suis toujours d'une certaine manière encore aujourd'hui.
Et alors, quand tu as reçu le coup de fil, donc toi, c'était Glénat. Tu leur avais envoyé un dossier quand même?
En fait, moi, c'est d'abord Casterman qui voulait me signer. Je les avais rencontrés. Je venais vraiment de faire le site internet une semaine avant. Et je suis allée à Angoulême et j'ai démarché pour le projet que j'avais. Et Casterman voulait me signer. Il y a eu plein de péripéties. Ça ne s'est pas fait de cette manière-là. Mais j'ai reçu 3 mois plus tard donc un coup de fil de Glénat parce que du coup, je leur avais envoyé un dossier vraiment béton. Et donc eux, ils ont un système très démocratique pour l'édition. C'est tout le monde, enfin tous les éditeurs viennent avec les projets qu'ils veulent défendre et voir publier. Et il y a un vote. Donc c'est très démocratique. Et en l'occurrence, le bouquin a fait unanimité, ce qui arrive une fois tous les 10 ans, il paraît, pour que tout le monde soit d'accord pour éditer le même livre. Et donc je me souviens très bien, en effet, du coup de fil que j'ai reçu ce jour-là pour m'annoncer ça et qu'on voulait absolument déjeuner avec moi dans la semaine. Et me faire une proposition.
Et Jacques Glénat avait poussé le projet.
Ah oui, complètement. Ils m'ont rappelé dans l'heure, sous la directive de Jacques Glénat.
Ok, donc c'est la dernière fois que je répète cette phrase, mais c'était juste pour vous montrer que c'est pas forcément parce que c'était des blogueuses avec des milliers de visiteurs qu'elles ont réussi à publier.
Ah non, moi j'avais rien fait sur Internet à ce moment-là, en effet.
On va donc passer à la suite. Lucille Gomez, avant même d'avoir créé votre blog, vous signez un deuxième album. Ouais, parce que là, ça devient important.
Je deviens quelqu'un d'important.
Et donc, ce deuxième album, c'est Les Fables de Belle Lurette.
Oui,
et
là, je teste la couverture. Donc.
Et c'est là, c'est les premiers affres de l'édition, car ça ne se passe pas super bien.
Bah, en fait, là, je déchante un petit peu, parce que moi, tout à coup, j'avais un livre qui sortait de nulle part, que je n'avais pas prévu de faire, qui se retrouvait en papier... J'ai commencé à découvrir le monde de la bande dessinée, les festivals, etc. J'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de faire une rubrique pour l'Écho des Savanes en me disant « Oui, t'es rigolote, c'est marrant, t'es une fille, t'es rigolote et tout. » Et nous, on cherche à féminiser notre humour. Alors moi, l'Écho des Savanes, je connaissais de nom. Du coup, j'en ai profité pour acheter le magazine qui avait en effet bien besoin d'être féminisé, parce que c'était très masculin comme humour. Donc voilà, mais ça se passait très bien avec eux, j'ai commencé, et puis l'Écho des Savanes a coulé, et ils m'ont dit c'est pas grave, on signe pour un album chez Albin Michel BD, continue, mais j'ai pas eu de nouvelles, enfin c'était très compliqué pendant un moment, et ça s'est fait racheter par une autre maison d'édition. Donc là où, au départ, déjà on venait me chercher parce que j'étais une fille, mais bon... j'étais libre de raconter ce que je voulais. J'ai travaillé avec des gens qui avaient choisi de travailler avec moi, et donc qui rigolaient à mes blagues, qui me donnaient des tapes dans le dos, et tout se passait très bien. Après, j'ai eu affaire à des gens qui n'avaient pas du tout choisi de travailler avec moi, qui avaient racheté un catalogue, une maison d'édition avec un catalogue dont je faisais partie. Et là, j'ai vraiment eu, déchanté, parce que le premier rendez-vous que j'ai eu avec mon éditeur, ça a été la couverture sera rose. Rose ou violette. Ils m'ont enlevé toutes les histoires qui parlaient d'autre chose que de féminité dans le stéréotype qu'on peut envisager. Ils m'ont dit, il faut que tu fasses. Bon, ils m'ont parlé de plan marketing, de mise en rayon et de produits définissables. Et ils m'ont demandé vraiment, de manière très claire, de faire des histoires sur le coiffeur, les soldes, l'esthéticienne, etc. Je suis sortie de rendez-vous et je sais que c'est un truc de meuf, mais j'ai pleuré en fait. Et là, je me suis dit, ça a été assez pénible de finir le livre parce que finalement, on est arrivé à une espèce de compromis où je me reconnais quand même dans les histoires qui ont été faites. Il y a des choses que. En plus, ils ont manqué de psychologie parce que j'aurais des trucs à raconter sur tous ces sujets stéréotypés, mais le fait de me le dire de cette manière, c'était impossible que j'accepte, quoi. Et du coup, on est arrivé à quelque chose qui est un peu un compromis entre, je me reconnais quand même dans les histoires, mais la couverture est rose, Mais je me suis dit, la bande dessinée, c'est pas assez lucratif pour ne pas se reconnaître dans ce qu'on a fait, donc je ne fais plus jamais de bande dessinée. À l'époque, je me suis dit ça.
C'était une des planches de l'album. Et c'est comme ça que tu as ouvert ton blog, justement pour plus faire de la bande dessinée payée, parce que payer, c'était pas assez cher pour s'embêter.
Voilà, c'était payé pas assez, je trouvais, pour ne pas faire des histoires dans lesquelles je me reconnaisse ou qui me correspondent. Donc, mais c'est pour ça que j'ai ouvert le blog, mais c'est aussi parce que le fanzine s'était arrêté, que j'avais envie de continuer à dessiner quand même. Et que. Voilà, à un moment donné où je me suis retrouvée toute seule avec mes dessins, toute seule un peu d'ailleurs dans ce moment de vie, et j'ai ouvert le blog dans cette ambiance-là. Ouais.
Pénélope, toi tu m'as dit quelque chose à peu près du même ordre sur la relation que tu peux avoir au blog, c'est que le blog c'était un moyen de dessiner sans avoir de retour de gens qui pouvaient t'embêter dans ton boulot, une chose comme ça.
Oui.
Tu peux développer cette idée-là.
Oui. Quand tu fais un bouquin, tu le fais en espérant que ça, au moins à moyen terme, que ça va plaire aux gens qui vont le lire. Quand tu fais une pub, malheureusement, tu ne te poses aucune question parce que sinon tu deviens dépressif, donc tu fais ce qu'on te dit. Et en fait, quand tu as fini ta journée et que tu as fait tout ça, tu as surtout envie de te mettre devant une série et rien faire. Donc tu ne dessines plus jamais pour autre chose que des gens. Et l'intérêt d'avoir au choix un carnet à spirale, un truc ou un blog, c'est que. Tu te relis pas, tu te demandes pas si c'est beau ou pas, si c'est drôle ou pas, et surtout tu te demandes pas si les gens vont aimer, parce que globalement les gens tu les vois pas et puis tu t'en fous. Donc je trouve que ça sert à ça.
Ça c'est tellement vrai que on peut dire que quelques mois après ton bouquin, ton blog a quand même une explosion en termes de fréquentation, à un point où tu as décidé de couper les commentaires parce que ça devenait ingérable. Tu avais des trolls.
Oui, et puis comme on se l'est dit quand on a préparé cette rencontre,
c'est fou tout ça.
Arrêtons de faire semblant que tout ça est complètement improvisé.
Je connais déjà toutes les réponses.
Désolée, les masques. C'est surtout que quand on a un blog et que tous les jours on répond à 100 commentaires, ça devient plein temps d'avoir un blog. Parce que on passe. Alors 90% du temps, on dit merci. Voilà. Après, on dit non, je ne suis pas d'accord, pourquoi tu dis ça? Et en fait, on passe 2 heures à retourner voir, etc. Alors que quand, par exemple, on ne va jamais sur son propre blog, ce qui est mon cas. Eh ben, ça prend le temps de passer par la plateforme de Typepad et de le mettre en ligne. Et du coup, ça redevient un truc qui prend vraiment 20 minutes et pas 4 heures. Donc, c'est bien.
Alors, on va parler de ton premier album, qui est, après Ma vie est fascinante, qui est Joséphine. Hop. Joséphine qui est née dans Femina.
Tout à fait.
Et qui était donc...
Une commande.
Une commande.
Encore une. Ouais. Comme souvent dans tout ce que je fais. Hein. En fait, c'était l'idée de faire une BD hebdo à la fin du mag, qui avait déjà une BD, mais il ne l'aimait plus trop. Et donc, il voulait autre chose. Et le brief, c'était, tu fais bien ce que tu veux du moment que tu nous rends une planche par semaine. Voilà. Donc, c'est des trucs qui...
Mais un peu féminin, quand même, dans la commande.
Non.
Non ?
Ce que tu veux, mais que ce soit feuilletonnant et que ça, tu puisses le faire toutes les semaines pendant un an. Voilà.
Alors, justement, puisque... Lucille m'a dit en préparant qu'en faisant sa BD, elle s'était rendue compte qu'elle était une fille et qu'on a parlé de ce côté enfermement dans la féminisation. Moi, j'ai choisi cette planche-là parce qu'il
y a des nibards dessus,
non,
Yannick.
Non, mais non. Tu dessines non, tellement bien tout. Les gros seins bronzés. Bah, oui. Non, j'ai choisi cette planche parce que finalement, c'est une planche qui me fait rire et que, n'ayant pas trop de problèmes ni avec ma virilité ni avec mon caractère hétérosexuel, je comprends que ça peut t'énerver et vous énerver toutes les trois quand on vous dit mais vous faites de la BD pour filles. Et comme on est là pour expliquer un petit peu votre vie d'auteur, votre vie d'artiste, je voulais que vous nous disiez un petit peu pourquoi c'est pas bien de vous dire que vous faites de la BD pour filles.
Mais moi, j'espère que je fais aussi de la BD pour filles. Mais est-ce qu'on dit à Boulet qu'il fait de la BD pour les garçons, par exemple ? Très bonne question. Il parle de jeux vidéo et de kebab, ça me fait rire. Alors qu'est-ce que... J'aime pas les kebabs. Qu'est-ce que je dois en déduire ? C'est un peu idiot. Après, je pense que entretenir cette idée de la BD pour filles, c'est pas un truc qui est développé par les auteurs ni par les lecteurs. C'est vraiment un truc des éditeurs. C'est que les éditeurs ont inventé ce créneau qui n'existe
pas. En tant qu'éditeur, je dirais, et de la presse.
Non, pas de la presse.
La BD girly.
Alors, la presse, ils reçoivent des communiqués de presse envoyés par les représ et par les gens de chez les éditeurs qui leur disent, on fait de la BD de filles. Regardez, on a fait une couve rose. Voilà, c'est de la BD de filles. Et à l'intérieur, il y a des pages shopping. Les filles vont forcément adorer parce que les filles sont idiotes et s'intéressent aux histoires de shopping. Voilà. Et donc après, les éditeurs, ils se disent, moi aussi, je vais en sortir deux ou trois des BD de filles. Comme ça, moi aussi, je vais faire du pognon. Voilà.
Donc ça veut dire que le matin, quand tu démarres tes notes de blog ou une planche, je te dis pas, il faut qu'il y ait du maquillage.
Non, en fait. Voilà. Et sinon, les couvertures roses me font fuir. Donc, qu'en déduire ?
T'es un homme !
Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il faut espérer qu'au fur et à mesure, les éditeurs vont arrêter de faire ça et vont se rendre compte que les filles, en fait, les filles, on va même dire, allez, les femmes, soyons fous, c'est celles qui lisent le plus tout court en France. Donc, a priori, il n'y a pas besoin de leur faire des livres juste pour elles qui parlent de fringues. En fait, elles aiment lire plein de choses. Et en BD, c'est pareil, en fait. Les filles, elles aiment bien lire. Donc, ce serait bien si la BD de filles, c'était juste de la bonne BD, en fait.
Oui. Mais alors, par exemple, quand on est dans une file de Pénélope Bagieu, mm-hmm. qu'on interroge une jeune fille sur ce qu'elle lit, qu'elle dit « Ah, moi, je ne lis pas de BD, je lis que Pénélope. » Qu'est-ce qu'on répond à ça ?
Mais on dit c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'il y a des choses à lire. Il faut leur dire est-ce que tu aimes les histoires, les personnages, les témoignages de un peu sincères ? Si oui, il y a plein de choses à lire en BD. En BD, il n'y a pas que les profs et les blondes ou la BD de filles. Il y a plein d'autres choses. Et il faudrait que ce soit plutôt vers là que les éditeurs essayent de faire avancer les filles plutôt que vers des guides de shopping. Quoi. Mais bon. Tu aurais dû inviter un éditeur, ça aurait été intéressant.
Merci.
Désolée de foutre en l'air de ta table ronde, mais c'est intéressant de demander ça à un éditeur. C'est bon. Pourquoi avoir essayé d'inventer cette niche comme ça de nulle part ?
Non, mais en plus, cette question-là, tu peux la poser à n'importe quel auteur qui est dans un domaine précis, qui fait de la SF ou de l'heroic fantasy, etc. etc.
Ah, mais moi, je vous pose la question parce que je sais que ça vous énerve, mais que je préfère qu'on en parle une bonne fois et que cette vidéo qui sera mise sur le site de la BPI circule au point qu'on vous la pose plus jamais. Je me tirais pas dessus.
Non, mais après, pour un peu apporter la contradiction, c'est vrai que ta BD, elle était dans un magazine féminin, déjà. Il y avait déjà dans la presse...
Mais ouais, mais il n'y a pas d'autres magazines généralistes qui aient de la BD.
Oui, voilà, c'est
la presse féminine, parce qu'en presse féminine, il y a des BD.
Ça explique peut-être pourquoi il y a des lectrices qui ne lisent pas de BD, mais qui te lisent toi, parce qu'elles t'ont connue dans un
bien
territoire...
Bien sûr, d'accord,
féminin,
mais...
Ce qui est autre que le territoire de la BD habituelle, voilà. En fait, moi, je trouve que... Le travers des éditeurs sur BD de filles, finalement, il a un avantage, c'est qu'il va chercher peut-être un public, il va chercher à élargir son public.
Oui, mais c'est un public qui va aller vers rien d'autre. Comme disait Yannick, les gens qui lisent ça, ils lisent pas de BD. Ils disent « ouais, mais la BD, j'aime pas ». Donc, ça sert à rien, en fait, tu vois. Ouais. Et cette espèce de fausse volonté d'amener les filles à la BD, ça les amène pas du tout à la BD, ça les amène à lire des notes de blog et à lire des BD avec des couves roses, mais ça va pas plus loin, quoi, tu vois. Donc,
qu'est-ce que t'as
compris ? Ben non, mais quand je te dis les notes de blog, je parle de moi, Lucille, donc tu sais, voilà.
La prochaine couve de Lucille est orange, il faut le savoir.
Quoi ? Comme celle de Digli ?
Oui, mais j'ai failli.
C'est moche, c'est enregistré. Donc, je passe vite. Donc, Joséphine 2, succès, et
Joséphine
qui passe,
3.
Qui passe en livre de poche. Joséphine 3. Et nous reviendrons à Joséphine un petit peu avant que tu partes, car dans Joséphine 3, il y a une planche de BD sur laquelle je souhaite que nous arrêtions, car elle mériterait d'être dans tous les cours de bande dessinée dans le monde. Voilà. Ensuite de ça, nous allons passer à Julie. Et Julie, un peu de la même manière stigmatisante, et d'autant plus que je viens d'écrire un article qui dit le contraire, est-ce qu'on peut accuser ta BD d'être une BD gay avec un calcul d'éditeur ?
J'ai pas mon éditeur sous la main, faudrait lui poser la question. On peut appeler Jacques Léna, mais ça m'étonne.
Est-ce que toi, ça t'énerve si on me dit ça ?
C'est pas du tout forcément le message que moi j'ai voulu transmettre, donc oui, ça peut mériter un tout petit peu. Mais ce qui mériterait davantage, c'est d'être catégorisée en tant qu'auteure lesbienne, alors que j'ai juste fait un livre et que j'ai parlé de ce sujet-là, mais de manière justement plus universelle dans les questions d'amour justement à aborder. Et moi, je vois plutôt ça comme un récit sur l'adolescence, sur la différence et sur le fait de se chercher et de se trouver.
Et alors, il y a un sujet qui a été pas mal discuté sur ta BD, mais en fait qui touche les trois, c'est le sujet de l'identification du lecteur à l'auteur et du rapport bizarre qu'il peut avoir avec la réalité. Et toi, tu m'as dit cet après-midi, est-ce que c'est autobiographique ? Non. Est-ce que c'est réaliste ? Oui.
Mais tout le monde ne peut pas s'empêcher de me demander en dédicace généralement si c'est autobiographique et en tout cas quelle est la part d'autobiographie dans ce récit. Et évidemment, c'est totalement imaginé, donc il n'y a pas. Enfin, c'est pas du tout autobiographique du tout. D'ailleurs, l'héroïne meurt et je suis très vivante. Mais évidemment, en tant qu'homosexuelle, il y a des choses que j'ai vécues dans mes propres sentiments, dans mes propres ressentis. Mais voilà, ça s'arrête là. Et s'il y aurait quelque chose de personnel dans cette histoire, ça serait plutôt le message que j'ai envie de donner, donc sur le fond, mais pas sur la forme.
On va revenir tout à l'heure, hein, quand en dernière partie, on prendra un petit peu vos albums pour pouvoir présenter un petit peu plus ces histoires et commenter quelques penches. Je continue sur cette histoire de proximité. Finalement, le blog, en étant dans l'autofiction, ça crée quand même un rapport du lecteur avec vous qui est, on en plaisantait tout à l'heure, on disait « Est-ce que Pénélope est vraiment girly ?» Ce qui, pour moi, est une mauvaise lecture du blog, parce que quand tu es habillé en Wayne's World, c'est quand même pas le film le plus girly que la Terre ait porté. Est-ce que Lucille a vraiment tant de galères avec les mecs?
Ah, qu'il essaye de placer ses billes. Alors, Lucille.
Et est-ce que Julie raconte sa vraie vie? Alors, on va prendre des notes de blog pour prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et puis, je vais vous laisser les commenter puisque vous les avez choisis. On va commencer par Pénélope.
Alors, ça, c'est mon header.
Voilà, donc ça, c'est le haut du blog. Et là, la note que je vais faire défiler.
Des rules. J'ai choisi une note avec de la nudité.
Pour te faire plaisir. Je tiens à préciser que c'est pas moi qui choisis la note où le personnage se déshabille pour éviter. Et alors, pourquoi tu as choisi ?
Je l'ai choisi parce que c'est un. Je trouve très bon exemple de en quoi le blog, ça t'apporte quelque chose que le papier ne peut pas t'apporter, notamment au niveau du déroulé, de jouer avec le rythme et de faire que tu manipules les yeux du lecteur. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est que tu passes très vite et que du coup, tu descends et qu'à la fin, tu fasses « je me suis fait avoir comme un bleu ». Bon, c'est complètement impossible avec un livre. Et c'est ça l'avantage, je pense, d'un blog. C'est pas de faire une pâle copie d'un bouquin ou essayer de reproduire à tout prix des cases, tu vois, il faut utiliser l'outil et je pense que le défilement c'est bien. Voilà, c'est pour ça. Et puis aussi parce que c'est une note récente, donc voilà, je sais pas. Voilà.
Très bien, on passe à Lucille. Le blog de Lucille qui utilise aussi pas mal la verticalité. Donc c'est une note sur comment manger des tapas. Je pense que comme les gens ne vont pas forcément tout pouvoir lire, ça vaut le coup que tu la décryptes un petit peu.
J'étais à Madrid à ce moment-là, et donc je disais qu'en France, quand on va manger des tapas, c'est un endroit où il y a une musique hispano, il y a Manu Chao, et puis c'est très calme, et puis on commande sur une carte, et puis on nous amène des choses dans des assiettes, et on ose à peine picorer dans l'assiette du voisin. Et là, à Madrid, j'avais l'expérience de les tapas, ça se mange complètement différemment. Donc c'est des endroits bondés. On montre ce qu'on veut derrière la vitrine, tout le monde commande, tout le monde mange dans la même assiette. Dès qu'un endroit se vide, on change d'endroit pour aller dans un endroit encore plus bondé, où on laisse voilà, où on crie très fort parce que tout le monde crie, on n'entend pas du tout de musique hispano parce que les gens crient, à chaque fois on boit avec, et c'est pas du tout pratique, on s'en met partout, voilà, ça n'a rien à voir avec le truc bobo, hyper clean, à la fin on boit tellement de bière qu'on parle super bien espagnol en fait, c'est ça l'avantage, voilà.
Et ça se termine en disant attention.
Quand on parle trop espagnol, après on a très mal à la tête. Voilà.
Donc voilà, c'est un autre bon exemple de choses qu'on peut faire sur le blog, dans la verticalité de la page, où on a une page qui n'a pas trop de limites, même si finalement, toi tu utilises des formats un peu homothétiques.
Mais là, en fait, moi, je suis un peu nulle en technique, donc j'étais limitée par. j'étais obligée à chaque fois de faire des carrés comme ça. Donc voilà. Non, moi, je savais pas à quel moment ça allait venir, ce truc, mais donc c'est. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai choisi celle-là. Je pensais que tu voulais montrer une évolution et l'intérêt du blog. C'était aussi de parler du quotidien. Le blog, il y a ça aussi. C'est vrai que dans le fait que les gens réagissent, etc., et qu'il y a un mélange entre fiction que les gens t'assimilent à ton personnage, c'est parce que c'est un côté quotidien. Au quotidien, on va voir ce que la personne raconte, et finalement on partage on a l'impression, même si c'est faux, parce que je peux très bien avoir fait cette histoire sur Madrid alors que j'étais ailleurs, on peut avoir l'impression de partager un peu le quotidien de quelqu'un.
Et toi, t'aimes bien ça, que les gens viennent en disant « moi aussi, je mange des tapas
» Non, il y a des choses qui sont désagréables. J'aime bien tant que je suis derrière mon écran et que je peux, moi, jouer de ça, jouer avec ça. Je trouve ça... plutôt, et puis j'aime bien en tant que spectatrice avoir un petit bout par jour. C'est un plaisir différent que d'acheter un gros album où je vais ménager du temps pour le lire, vraiment. C'est pas le même plaisir. J'aime bien avoir un petit bout par jour d'une ambiance.
Plaisir de lectrice.
En tant que lecteur, j'aime bien ça aussi. Après, non, les gens qui ont l'impression de me connaître parce qu'ils ont lu ce que j'ai dit sur les tapas ou qui. Non, je trouve ça toujours un peu bizarre parce qu'il y a vraiment des gens qui ont l'impression de te connaître et qui viennent te parler ou qui ont l'impression de prendre de tes nouvelles en ayant lu ton blog alors que. Mon père m'a fait ça. Oh, j'ai vu sur ton blog que ça va pas trop en ce moment. Alors que c'est complètement anachronique. Bon, non, je n'ai pas trouvé ça super. Non.
Julie, la même chose. Tu as des gens qui croient te connaître à cause du blog.
Ah oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs discussions désagréables de manière virtuelle.
C'est-à-dire, tu fais du sexy, c'est quoi désagréable?
C'était sur le premier blog. En effet, des gens qui viennent vous juger très vite parce que vous avez dit ça ou décrit telle chose que vous avez fait, etc., etc. Et qui donc s'en tiennent juste à des faits que vous avez dessinés et vous êtes là, mais non, mais ça ne résume pas qui je suis ou ma manière de penser, etc., etc. J'ai peut-être pas forcément décrit mon point de vue. Donc, ça crée beaucoup d'amalgames, en fait, comme type de narration aussi. Et on s'entend pas forcément bien avec les gens qui nous lisent. Enfin, après, c'est un souci d'auteur, c'est de réussir aussi à transcrire l'intention première qu'on avait. Et c'est toute la difficulté de l'exercice, de bien se faire comprendre.
Alors justement, il y a une note qui avait fait quand même pas mal de buzz sur Internet, parce que ça a entraîné que d'autres auteurs te suivent dans le mouvement. Donc c'est la note que tu as choisie. Ceci est mon pamphlet, donc prise de position. Je te laisse l'expliquer.
C'était une histoire que j'avais créée. Et en fait, il y a la journée internationale contre l'homophobie qui est le 17 mai, tous les ans. Et donc moi, quelques semaines avant, j'avais préparé le crayonné de la note qui défile là, voilà. Et je l'avais envoyé à une bonne quantité de blogueurs pour leur montrer justement, on en revient à cette question d'intention, où je voulais en venir et éventuellement réussir à mobiliser un maximum de dessinateurs pour le 17 mai avoir une mobilisation collective sur Internet pour la journée contre l'homophobie. Et donc j'avais aussi interpellé Matt de blogbd.fr qui est le gros site de référencement de blog BD. Et donc j'avais fait une bannière plusieurs jours à l'avance qui était sur son site. Et donc ça a interpellé beaucoup de gens. Moi j'avais publié le pamphlet quelques jours avant.
Donc des blogueurs m'ont répondu directement et d'autres se sont joints à l'événement. Et le jour du 17 mai, on a eu une centaine de participations sur la toile. Donc de gens qui ont publié des textes, des dessins, des photos. Enfin, ça a été vraiment tout type de création confondue. Et voilà, c'était vraiment un message très viscéral, en effet, personnel sur des questions d'homosexualité, de tolérance et tout ça.
Justement, parce que là, tu disais que tu avais réussi à embarquer des gens avec toi. Est-ce que le blog, ça permet de se créer une bande, de faire des rencontres professionnelles, amicales?
Ah, complètement, complètement, oui, oui, bien sûr. Mais en fait, on a un métier assez d'autiste, donc heureusement qu'il y a cette forme-là qu'on puisse prendre aussi sur Internet. Enfin, moi, je sais que ça m'a vraiment permis, même par le Festiblog, de rencontrer pas mal de gens avec qui j'étais en contact de manière interposée derrière l'écran.
Moi, j'ai subi les hordes de fans de Julie qui me disaient « Pourquoi Julie vient pas au Festiblog ?» Je recevais des mails de menaces. Et donc, on a découvert son blog, on a trouvé ça très bien, on a dit « On va l'inviter ». Bon, et puis depuis, on n'a plus besoin d'être menacé pour l'inviter, on trouve ça super. Mais c'est vrai qu'il y a une bande Pénélope. Même si tu travailles en atelier, est-ce que le blog, ça t'apporte des contacts professionnels, amicaux? Amicaux, peut-être plus trop, vu qu'il y a moins de commentaires.
Pas d'amis.
T'as pas d'amis.
Tout le monde ado, en fait. Professionnel, c'est ça, le blog, ça apporte des contacts professionnels dans le domaine du faux plan, surtout, essentiellement. Parce que les gens partent du principe que si t'as un blog, c'est que tu n'aimes pas être rémunéré. Donc ils se disent « Oui, on vous offre une belle visibilité ». Donc généralement, la loi, c'est si ça, les gens passent par le blog, c'est que c'est un plan de merde, hein, quand même. Mais non, pas trop. Pas trop d'amis, pas trop de travail par le blog. Faut pas trop lui charger les épaules à ce pauvre blog. Il sert à juste faire des dessins, c'est bien.
Et alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un confond Pénélope Jolicoeur et Pénélope Bagieux?
Mais tu sais, je vois pas les gens qui me lisent.
Ça n'arrive plus.
Mais je ne les vois pas, enfin, à part en dédicace, et là on se parle comme des gens normaux, donc c'est l'avantage du blog. Hein. Tu sais, tu ne vois pas tes lecteurs, tu vois ton ordi, donc ce que les gens interprètent, imaginent, voient, comprennent, en fait ce n'est pas ton problème, tu ne les vois pas. Donc c'est exactement comme être sur une scène, faire un spectacle, et la salle est noire, et donc tu ne vois pas les gens, puis tu n'entends pas leur réaction, donc c'est comme une salle où tu n'entends pas les gens.
Sans public.
Et sans public, voilà. C'est, non, il y a du public, tu sais qu'il est là, tu t'en doutes, tu vois, mais concrètement, tu le vois pas, tu l'entends pas, donc t'es complètement désinhibé, tu t'en fous, c'est très bien.
Je suis assez d'accord, et en même temps, comme au théâtre, il y a toujours les coulisses, donc il y a toujours des gens pour venir frapper et donner des avis quand même, ce qui nous permet aussi d'avancer sans cesse, je crois, nous remettre en question malgré tout. Enfin, même si t'as fait... Non, mais... même si toi, t'as fermé les commentaires, je parle pas forcément de commentaires quand je dis ça, mais
non, mais moi, j'ai
des
amis
qui reviennent.
Mais j'ai mes amis qui me disent « Ah, j'ai bien aimé ta dernière note de blog. Voilà. »
Mais bon, oui, mais c'est pas juste ça. Des fois, ça peut être quelque chose de plus pointilleux, qui nous fait vraiment réfléchir aussi et
si
enclencher d'autres
choses. Si elle t'embête, tu lui reprends la dédicace.
Non.
Lucille, toi, t'as fait des rencontres avec les blogs?
Mais Lucie, on s'est rencontrés.
C'était pas ta rencontrer. Question. Juste, ta question, c'était pas est-ce que t'as fait des rencontres avec le blog? Parce que oui, rien que par le Festiblog.
Ah, le Festiblog.
J'en profite pour faire un placement produit.
Pas mal. Je te donnerai 10 euros à la sortie. Voilà.
Non, mais c'est vrai, c'est l'occasion. C'est que tu mets des têtes sur les dessins, donc c'est quand même pas mal. Il y a ça. C'est comme des vrais gens, quoi.
Oui, moi, toi, je t'ai rencontré grâce à mon blog. Toi aussi. Plein de gens en fait finalement, et même si en effet le fait d'avoir un blog ça rapporte beaucoup de gens qui se disent ah ben tiens tu dessines pour ton passe-temps, tu vas pas nous faire ça gratos, etc. Malgré tout c'est une vitrine qui est quand même assez pratique. Moi ça m'arrive que sans que je m'en rende compte des gens aillent le voir et puis qu'après ça me rapporte du boulot quand même, quoi. Voilà, même si je rencontre quelqu'un qui est susceptible d'avoir besoin d'un illustrateur, j'ai pas besoin de lui amener un book, etc. Mais moi, j'ai pas d'agent, j'en veux pas. Enfin, et du coup, il y a mes publications, il y a des choses ici et là que je peux montrer à l'occasion, mais il y a aussi mon blog qui fait son travail tout seul. Et en plus de ça, ce qui est pratique, c'est que finalement, au lieu de faire un book où on se dit « qu'est-ce qu'ils vont attendre de moi ?» du coup, je vais faire ça parce que je pense qu'ils vont attendre ça de moi pour le mettre dans un book, dans tel ordre, etc., etc. Là, on fait ce qu'on a envie de faire et du coup, on vient vous chercher pour ce qu'on aime faire déjà. Alors que, voilà, du coup, c'est un truc un peu à l'envers, quoi.
On va maintenant passer à un festival d'Angoulême où la jeune fille qui est au bout de la table dit « Eh tiens, si on prenait le train ensemble ?» Et on n'arrive pas à prendre le train ensemble.
Le truc en trois bandes, oui, d'accord.
Voilà. Et ça donne ceci.
Alors, le lire n'est pas forcément évident.
Mais je vais te laisser expliquer pourquoi je dis ça.
Mais oui, j'étais avec Yannick à Angoulême, on prend le même train, et au moment de monter dans le train, on se rend compte qu'on n'est pas dans le même wagon, on se dit ben, « on se verra à Paris ». Et Yannick, avec son air de midinette groupie, me fait « regarde pas, il y a Johan Svar oh là là.
Sur le, si. Sur le quai.
Il l'a dit comme ça, et il a fait « Ah non, t'as trop de chance, t'es dans son wagon, la haine !»
Mais c'est, alors, c'est pas vrai du tout.
Et donc, alors, effectivement, j'étais dans son wagon. Écoute, Yannick, c'est moi l'intervenant, donc tu me laisses parler. Donc, non seulement j'étais dans son wagon, mais en plus, là, c'était mon tour de rigoler dans mes cheveux et de faire ma midinette. J'étais assise en face de lui dans le train. Et donc, j'envoie 12 textos, genre « Je suis assise en face de Johan Svar dans le train !» C'était ouf. Et donc, au bout d'une heure, il était en train de lire une bio de Brigitte Bardot parce qu'il préparait un film sur Gainsbourg à l'époque. Et au bout d'un moment, il me fait « Mais tu fais de la BD, non ?» Alors, je dis « Ah, c'est bon, je peux mourir, oh, mon Dieu. » Et en fait, on commence à se parler. Il fait semblant qu'il voit très bien qui je suis. Et à la fin, il me fait « Non, en fait, je vois pas du tout, désolé. » Et en fait, après, il me rappelle, genre une semaine après. Et il me dit « Mais si, maintenant, entre-temps, je vais aller voir ce que tu fais. Et c'est bien, c'est pas mal. Tu voudrais pas faire une BD dans ma collection ?» Et donc là, je suis décédée, voilà, parce que j'étais trop heureuse, et j'ai fait ça.
Alors, je raconterai pas la vraie histoire, parce que je trouve que la tienne est vachement...
Non, Yannick était hyper bonhomme, bien sûr, et pas du tout midinette, dans la vraie histoire.
En fait, on a dit, tiens, si on se débrouillait pour s'asseoir l'un à côté de l'autre, elle est partie voir s'il y a de la place dans son wagon, et j'ai reçu un SMS qui dit, oh, je suis assise en face de Johan Svar, ce qui, en langage pénal, voulait dire, tu peux crever pour que je vienne te retrouver.
Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai, tu me connais super.
Donc, puisqu'il ne te reste que quelques minutes parmi nous, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cet album dont je vais montrer quelques planches. Qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que, puisque c'est un petit peu le premier album qui n'était pas une commande et que oui. Tu t'es lancé, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur cette aventure ?
C'est beaucoup plus dur qu'une commande. Parce que on se pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, ce qui est déjà assez dur, et de qu'est-ce que je suis capable de faire, ce qui est encore plus dur. Et en l'occurrence... c'était quand même un peu à traverser du désert, mais ça raconte une rencontre et une histoire d'amour dans le milieu de l'édition et du salon de l'automobile.
Voilà. Ton éditeur doit être ravi quand tu présentes
quel pitch.
Voilà. C'est une histoire formidable avec.
Non, c'est un très bon album. Ouais.
Des rebondissements qui lui donnent un sel particulier, et c'est une histoire qui va avoir, tout comme Joséphine. Une autre vie sur grand écran.
Oh oui, c'est ça, qui va faire un film.
Alors donc, réalisé par...
Par maman. voilà. Mais bon, ça, vu que je commence à écrire la V1 du scénar en septembre, j'aimerais bien que tu ne me mettes pas trop la pression en parlant avant.
Mais c'est signé.
Mais c'est signé, oui.
Donc on peut s'attendre en 2014, 2013.
Écoute, ce serait bien fin 2013 déjà, je serais contente.
D'accord. Et voilà. Vous êtes tous invités à figurer dans le film.
Non, c'est vrai, c'est ce que je disais à Yannick l'autre jour, parce qu'il m'a demandé, encore une fois, avec son air bonhomme habituel, oh, « Tu crois que je pourrais jouer dedans ?» Et je lui ai dit « Bah oui, tu pourras bien sûr avoir un petit rôle de figuration, comme tous mes amis, que j'ai bien l'intention de caser dans ce film, partout, tu choisiras. »
Bon, la vraie histoire, c'est qu'elle m'a dit que tous ses amis pouvaient jouer dedans, et j'ai dit « Même moi, ça s'est passé dans ce temps-là. »
Oh, Calimero. Ouais. Voilà, il t'a dit oui, tu feras le rôle du. Tu ouvriras la porte et tu feras bonsoir, monsieur.
Écoute, ouais, parfait.
Une carrière démarre.
Voilà. C'est payé ?
Comment ?
C'est payé ?
Ouais, tout à fait.
En plus, je dis deux fois bonsoir pour ce prix-là. Et.
C'est un truc de ouf.
Puisque. Voilà, une planche.
Et la page 1 de cette BD que je suis en train de finir. Puisqu'il ne me reste que 100 pages. Qui devrait être terminé pour le mois de juin 2012. Et voilà, et ça va sortir pour Noël. Et ça s'appelle La Page Blanche, avec Boulet au scénario, aux éditions Delcourt, sous la houlette de Yannick Lejeune. Voilà.
Un éditeur qui ne t'a pas demandé de faire un truc garli.
Non, un éditeur qui m'a demandé de faire un bouquin, qui m'a dit « Fais bien ce que tu veux ». Et je lui ai dit « J'aimerais bien travailler avec un scénariste ». Et il m'a dit « Pourquoi tu ne travaillerais pas avec Boulet ?»
Voilà.
C'est ce que nous faisons. Voilà.
Mais nous n'en parlerons pas plus, parce qu'on ne voudrait pas détourner cette rencontre en truc publicitaire. On m'accuserait de népotisme, chose dont je ne veux pas. Il te reste 2 minutes avant de nous quitter.
J'ai une annonce à passer. Je vends un matelas. Non,
c'est bon. Alors, je vais montrer cette planche-là. Et puis, je vais la commenter moi-même. si elle arrive. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est les bonnes couleurs? Par contre, j'étais inquiet avec le profil quadri. C'est bon?
Mais tu sais, si tu ne mets pas celle d'avant, on ne comprend pas.
Eh bien, je vais expliquer. D'accord. Je vais expliquer moi, comme ça, je pourrais en dire tout le bien. Voilà. Je pense que, pour ceux qui connaissent le travail de Pénélope, on sent quand même qu'elle a travaillé un petit peu dans l'animation, et qu'elle a, parce qu'elle a cette capacité à donner des expressions aux personnages, et sans vouloir lui dérouler un tapis qu'elle ne mérite pas, vu qu'elle a transformé tous mes propos dans... Voilà, vous avez ici une planche qui est très intéressante parce qu'on a un champ contre champ, enfin on a plusieurs plans. C'est l'histoire de Joséphine. Joséphine, dans le tome 3, découvre qu'elle est enceinte. Et là, comme vous pouvez le voir au début, elle vient d'apprendre la situation. Elle ne l'a pas encore appris à l'autre intéressé. Et ça, c'est ce qui se passe dans le plan du fond, puisque vous voyez les expressions. Et puis, au premier plan, il y a le chat. Donc l'histoire les chats, les blogueuses et tout ça, je vais passer dessus puisque moi-même je suis membre du comité contre les chats créé par les nuls. Il n'empêche que voilà, là où on a une planche, Brad Pitt, c'est le nom du chat qui s'appelle Brad Pitt a une bite trépidante, et où on pourrait s'intéresser à ce qui se passe en premier plan et où il se passe pas quelque chose de très trépidant, on a vraiment derrière de la bande dessinée avec une succession d'expressions dans une même pièce qui raconte toute une histoire, et je pense que c'est assez clair sur ce que vivent les personnages quand ils discutent de cette grossesse. Je pense que cette planche est une grande planche.
Oh, merci Yannick.
Voilà, maintenant vous pouvez nous quitter, sinon vous allez
être en retard. Jusqu'à 10.
Bon. Alors on va prendre une ou deux questions pour Pénélope, s'il y en a.
Des questions sur Yannick. Bonsoir.
Bonsoir. J'aimerais vous demander quel est votre rapport au papier et au crayon. Alors, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur Internet, les blogs, nouvelles technologies. Est-ce que vous dessinez encore à la main, ou est-ce que vous êtes uniquement passé à la tablette et aux outils
Alors, en fait, à la base, moi, je n'ai pas d'a priori sur un outil meilleur qu'un autre. Je pense que du moment qu'on maîtrise un outil, il est très bon. En l'occurrence, moi, je ne sais faire rien d'autre que de la tablette, parce que je ne sais pas faire d'aquarelle, je ne sais pas faire de crayon et tout ça. Et comme, justement, je faisais de l'anime à la base, je dessinais sous Flash. Et quand on dessine avec Flash, si on commence à... C'est le principe des frames, quoi, de faire... 24 images par seconde. Donc si on commence à les dessiner à la main et qu'on scanne tout, on met 10 ans. Donc très vite, je me suis forcée à dessiner directement sur l'ordi. Ce qui fait que quand je suis sortie de l'école, je ne me suis pas trop posé la question, j'ai continué à dessiner comme ça. Et c'est vrai que quand on a une ligne assez simple, ce qui est mon cas, pas trop d'efforts de couleurs parce que c'est des aplats de Photoshop, en fait, le mieux, c'est qu'il n'y ait plus d'intermédiaires et on gagne du temps à tout faire sur l'ordi. Moi, je gagne un temps fou. Donc, je fais tout, en fait, pas à la tablette, mais à la Cintiq, qui est un écran sur lequel on dessine directement. Donc, il n'y a plus aucun intermédiaire. C'est comme dessiner avec un papier et un crayon, mais sauf que c'est déjà un JPEG tout prêt, c'est parfait. Et surtout, du coup, j'ai un bureau très triste, qui est un bureau pas du tout d'artiste, parce que c'est une tablette Cintiq, et c'est tout. Il n'y a même pas un bic sur mon bureau. C'est désespérant. Mais
c'est voilà. Comme ça qu'elle va réussir à faire 100 pages pour la fin du mois.
Oui. C'est ça.
Merci.
Une autre question?
Sinon, je m'en vais.
Pas de question.
Eh bien, je m'en vais. Voilà.
Ça veut dire que tu as été.
Tu n'intéresses pas les gens, va-t'en. Ah.
Soit que tu n'intéresses personne, soit que tu as été très claire.
Je crois que j'ai tout dit. Bonsoir.
Moi, je voulais juste poser une question concernant le niveau de travail demandé dans la com, etc. Mm-hmm. Est-ce que, à l'heure actuelle, et vu votre notoriété, on vous demande quand même un rythme assez intensif? Et si oui, est-ce que vous arrivez à dire non, etc.
Tu veux dire pardon, je te tutoie. Tu peux tutoyer aussi.
Il n'y a pas de problème.
Tu veux dire en rythme intensif, c'est-à-dire le nombre de commandes ou le
ouais,
rythme
le nombre de planches par semaine, par exemple, qui est
En fait, en pub, je fais pas des planches, je fais pas de la BD, je fais vraiment des illustrations. Donc, il y a peu de volume, mais les gens sont très chiants sur une image. C'est que tu passes 3 semaines sur une image, quoi, en gros. Et alors ça, que tu sois connu ou pas connu, tout le monde te fait chier pareil. Ça, c'est vraiment. Après, en BD. J'ai des gros volumes à rendre parce que je suis à la bourre, mais sinon, normalement, non. La différence, censément, quand tu as une petite notoriété en illustration, c'est que c'est les gens qui viennent te chercher et qui disent « Ah, on veut vraiment votre style, c'est vous qu'on veut, on veut que vous fassiez comme vous voulez, faites ce que vous voulez », puis en fait, c'est pas vrai du tout, puisqu'ils veulent que tu fasses ce que tu veux, sauf qu'il faut que tu fasses exactement comme ils veulent eux, en fait. Donc, Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, que tu sois connu ou pas. La pub, tu te bosses beaucoup et tu as des délais ridicules. Et les gens... Voilà. Il ne faut pas me lancer là-dessus, en fait.
Elle va pleurer.
Non, non, je ne pleure pas. C'est mieux que... Au moins, je suis assise, quoi. Mais bon, c'est... Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait. Pas trop.
Si, si, non, en fait, non, je suis tombée sur... parce que je suis plusieurs blogs à la fois, et donc j'étais tombée sur un article de Digli qui disait qu'elle avait une trentaine de planches encore à rendre en 15 jours, ou je ne sais plus. Fin...
Mais les planches, c'est pour elle, c'est pour son livre, non?
Oui, enfin, c'était pas pour son blog, c'était pour un... Enfin, elle était rémunérée, etc., pour ce travail. Ah, et oui. C'était des planches entières, et j'avais trouvé que c'était énorme. Enfin, c'est peut-être aussi parce que, quand je dessine, je suis super lente, oui. Sans doute pour ça. Mais du coup, j'avais trouvé que c'était effarant ce qui était demandé comme rythme à avoir, et donc je me disais, waouh, mais
en fait, tu comment on fait temps, quand on est illustrateur? Tu gères ton temps aussi comme tu veux, c'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à dire non. Alors, c'est vrai que c'est mieux quand tu peux te dire non. C'est sûr que les premières années, quand tu commences à bosser, tu prends tout et tu bosses tous les dimanches, toutes les nuits parce que t'es pas trop en mesure de pinailler. Quand tu peux commencer à dire non à des trucs, naturellement, tu vas égrener en enlevant en priorité les trucs les plus chiants et les trucs les plus mal payés. Et puis, petit à petit, tu réussis à avoir un équilibre où ce que tu fais est faisable dans les temps. Mais enfin, tous les freelances, le point commun, c'est qu'ils bossent tout le temps et le week-end et qu'ils ont pas d'horaire et qu'ils partent jamais en vacances quand même. Ça, c'est... Je pense que c'est universel, tous les freelances sont comme ça, quoi. Donc, on ne le dit pas dans les écoles, mais après, on bosse tout le temps, voilà.
Merci.
Une autre. Il est 20h05.
Eh bien, je vous tire ma révérence.
Eh bien, merci.
Non, merci à vous.
Et nous allons donc passer à la suivante pour éviter... Un accident de train.
Bah ouais, c'est dommage.
Et donc, revenons sur le livre de Julie. Donc, Julie...
Non, je suis partie avec Pénélope.
Si tu veux, on a plein de livres de Lucie là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter... Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce livre? Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, honte à eux. Vite fait.
Vite fait.
Comme Pénélope a fait pour Cadavrexis, c'est-à-dire tu peux dire n'importe quoi.
Oui, le pitch, vite fait, ce que ça peut être. C'est une adolescente qui rencontre une jeune fille qui la bouleverse complètement. Et elle se rend compte qu'en fait, elle est amoureuse d'elle. Donc, évidemment, ça remet en question toute son identité. Et voilà, donc c'est le chemin de cette adolescente dans la découverte de son homosexualité, donc de manière personnelle, mais aussi familiale, sociale, etc., etc.
On va regarder les planches. Je pense que ce qui est frappant, je vais prendre plutôt celle-ci que tu as sélectionnée. Ce qui est assez frappant déjà, c'est la différence d'approche graphique par rapport au blog, parce que là, il y a un travail de couleur et tout ça qui est un peu plus recherché, c'est un album. Pourquoi tu as choisi cette planche-là?
C'est un peu la planche la plus connue, je pense, du livre. Enfin, au niveau de la presse, c'est vraiment celle qui ressort le plus, celle qui est choisie tout le temps. Donc, ça me semblait approprié de la ressortir là aussi. Puis c'est vraiment le moment de la rencontre et de ce qui se passe dans les regards de chacune. Donc, c'est tous les frissons qui vont avec.
Alors, tu parles de la presse. On a déjà évoqué tout à l'heure le fait que des gens se posent la question du caractère autobiographique, ce qui est un petit peu bizarre, puisque l'album se termine sur un événement grave.
Grave, mais optimiste. Enfin, je sais que moi, je suis très pessimiste de manière générale dans ma vie, mais mon message pour le livre en question est sur l'amour à donner... dans nos vies et vraiment très, très fleur bleue peut-être, très optimiste en tout cas.
Ça va bien avec la couleur de l'album. mais par contre, il y a la question du caractère militant dont on a parlé.
Oui, oui, oui. Parce qu'évidemment, je pense que même si ce n'était pas mon intention première du tout d'être dans le militantisme, le résultat, il est là et ça prend une forme de militantisme pour la cause homosexuelle.
Après, moi, je suis plus dans un souci de banalisation, justement. Et
Ça, c'est une question que je me posais moi quand j'ai lu l'album. Finalement, je l'ai lu comme un album qui parle d'une histoire d'amour sans m'intéresser au caractère.
Et beaucoup de monde l'a reçu de cette manière-là. Voilà, et la plupart des messages que j'ai sont ceux-là. Donc, d'une certaine manière, c'est vraiment la réussite que j'ai pour cet album. C'est que justement, ce soit justement banalisé et que c'est reçu comme une histoire d'amour comme une autre. Et que des gens qui n'ont absolument aucun sentiment homosexuel, que ce soit féminin ou masculin, se retrouve vraiment dans le parcours de l'héroïne.
Alors ça, c'est un truc qui a été concrétisé par un prix au Festival d'Angoulême.
Pas que celui-là, mais ouais. C'est le plus important.
Oui, mais c'est eux les sponsors de la rencontre.
Donc celui-là, il faut le nommer.
Bon, alors plusieurs prix. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix dans les festivals, par exemple Angoulême?
Angoulême, en l'occurrence,
sur
c'est
un premier album.
C'est beaucoup de pression, en fait. Les prix que j'ai reçus juste avant celui-ci, il y en avait un où je m'y attendais absolument pas, où j'étais pas là à la remise des prix, on m'avait pas invité. Et le lendemain, quand je suis arrivée officielle, on m'a dit mais vous étiez où hier? Et j'étais là mais quoi? Pourquoi? Vous avez reçu un prix? Ah bon? Et donc mon premier prix, ça a été ça. Ça a été pardon, il va falloir essuyer.
C'est grave,
c'est trop d'émotion. Et vraiment, c'est passé comme une lettre à la poste parce que je n'avais pas le temps de me rendre compte de ce qui se passait. Le prix suivant, j'en ai fait un réveil d'ulcère parce que j'étais prévenue 24 heures avant, même plus, je crois. Et donc, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Et le prix d'Angoulême, alors là, je m'y attendais absolument pas parce que ce auquel je pouvais prétendre, c'était le prix révélation avant tout. Et moi, je voyais vraiment tout le monde avant moi. Enfin, il y avait vraiment, enfin, en l'occurrence, la parenthèse a reçu le prix, et c'était clair et net pour moi que la parenthèse recevait un prix Angoulême. Et Brecht Evans avec ses noces aussi. Enfin, vraiment, je m'y attendais absolument pas. Je voulais pas y prétendre. Et le prix du public, bah voilà, c'est vraiment des gens qui votent. Et il y a pas mal de votants, donc pour moi, c'était clair et net que ça allait être quelque chose de plus populaire éventuellement. Et donc que ce soit le prix du public que je reçois, c'était pas seulement une victoire en tant que prix d'Angoulême, enfin c'était déjà énorme, mais c'était aussi, enfin c'est bon quoi. Là en effet, Pénélope parlait de pouvoir mourir à un certain moment de sa vie. Moi j'en étais à ce stade-là. C'était genre c'est le public qui prime cet album, c'est gagné vraiment pour le message que j'ai à faire passer. Donc ça a été une minute de trou noir où je me souviens à peine de ce que j'ai dit, où je me suis rassis en larmes à côté d'une Antico qui me frottait le dos. Et où après Frédéric Mitterrand n'en pouvait plus de moi, enfin à brandir le trophée avec moi sur scène. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais ça l'a beaucoup marqué. Et donc c'est le souvenir que j'en ai, c'est de me dire waouh, bah je peux tourner la page, j'ai passé à autre chose. Mais il y a beaucoup beaucoup de pression sur ce que je vais sortir derrière du coup.
Et alors comment on gère ça quand tu travailles?
On n'y pense pas, il faut pas y penser. Moi j'ai arrêté de faire de la promo à partir de ce moment-là parce que ça faisait déjà un an que j'étais en promo de festival, de libraire, de presse, à répéter toujours la même chose et j'en peux plus sur ce truc parce que moi je l'ai accouché déjà plein de fois. Donc j'ai arrêté la promo à partir de ce moment-là où justement tout le monde d'un seul coup redécouvrait l'album. Et bah tant pis, ça allait se faire sans moi, mais du coup là, donc je suis enfermée en ermite pour travailler à Angoulême, au fin fond de la Charente, où personne peut me trouver. Voilà, maintenant je l'ai dit, c'est trop tard. Mais
oui. Tu veux dire cet endroit perdu où il se passe un truc une semaine par an? J'ai pas dit ça. C'est pas vrai en plus. J'y serai le 7 juillet.
Voilà, il y a les rencontres internationales, voilà, de la bande dessinée, et moi je suis en résidence à la Maison des auteurs, donc c'est parfait.
Tu avais choisi une autre planche.
Je pense que c'est ma planche préférée de l'album, en fait.
Et pourquoi?
Parce que ça se passe à 800, à 800 selon la prononciation, dans le nord de la France. C'est la Côte d'Opale, c'est moi, toute mon enfance, c'est l'humidité de l'air avec le sable qui est mouillé. C'est tout ça à la fois. Et c'est le moment juste avant le basculement du livre où on tombe un peu dans le tragique. Et donc c'est ce moment vraiment en suspension où il y a tout l'espoir qui renaît d'une vie d'adulte et de projection. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais 2 mois de retard à cause de l'imprimeur sur les bleus de coloriage. Donc je faisais minimum 5 planches d'aquarelle par jour. Donc c'était très frustrant sur un papier qui n'était pas adapté.
Et donc, je suis pas contente du résultat. Et celle-ci, ça va.
Ça va. Et justement, tu m'expliquais que sur tes albums, tu
fais... Mon album, hein, il n'y en a pas eu tellement.
Oui, mais là, tu en prépares d'autres.
Oui.
Tu fais l'album quasiment avant de le présenter aux éditeurs.
Oui, après... Enfin, moi, je ne sais pas comment Lucie travaille, mais moi, je suis très névrosée. Donc, c'est étape par étape. C'est d'abord, j'écris. Après, je fais le découpage. Non. D'abord, je recherche des personnages. Après, j'écris. Après, je fais le découpage. Après, je fais le dessin. Après, je fais la couleur.
Et donc, quand tu as présenté ça chez Glénat, tu avais déjà tout le découpage ?
Chez Glénat, j'avais une centaine de pages de découpé.
Sur
152.
Ouais. Et est-ce que c'est une manière de se protéger de l'intrusion d'un éditeur dans...
Pas du tout. Au contraire, c'est pour l'amener le mieux possible dans ma vision et ce vers quoi je veux aller, justement. Et je pense que présenter juste 5 pages avec un pitch à un éditeur, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut... Enfin, souvent, on montre des planches définitives de ce que ça va donner, le produit final. Mais moi, comme il y a une réelle intention, en fait, j'arrive pas à faire quelque chose de manière gratuite. Cet album-ci, on parlait de militantisme, mais moi, j'ai besoin toujours de mettre du sens en me disant, si je le fais pas, il y a personne qui le fera. Et ça peut paraître prétentieux, mais c'est juste très personnel. C'est pas forcément... par rapport aux autres. Et donc le livre que je suis en train de préparer, qui n'a rien à voir, c'est la même chose, c'est de mettre un sens dedans. Et donc si je ne peux pas mener mon lecteur, donc l'éditeur devient lecteur à cette étape du travail, vers là où je veux l'amener, pour moi ça n'a pas de sens. Donc il faut au moins que dans la préparation des étapes, il puisse savoir vers quoi je l'amène.
D'accord. Pénélope et Lucille nous ont parlé de leur travail d'illustration hors BD. On travaille dans la com et tout ça. Toi, tu fais quoi quand tu fais pas de la BD ?
Je suis au chômage.
Tu es au chômage. Tu fais des formations de BD, non ?
Non, en fait, moi, j'ai la chance de pouvoir donner des ateliers donc dans des organismes très précis qui m'appellent et voilà, qui sont intéressés par la pédagogie que je peux donner. Donc, en fait, le problème, c'est que comme je suis fiscalisée en Belgique, j'ai un statut qui n'existe absolument pas en France, qui est artiste salarié auprès de l'organisme SMART.
Mmh. C'est une sorte de portage salarial, on en parlait.
Voilà, donc c'est, j'ai obtenu un statut d'employé, du coup, auprès d'eux, et quand je ne suis pas rémunérée par mes clients, donc mon éditeur peut devenir un client, du coup, je touche mon chômage complet à l'année.
Et du coup, quand est-ce qu'on... J'ai entendu, c'est génial à ma droite.
J'ai mangé des pâtes pendant 2 ans hein, pour obtenir ce statut.
Du coup, avec le temps que ça peut te donner, quand est-ce qu'on va voir surgir
Là, je me suis lancée dans un roman graphique à l'acrylique. Bravo. Donc, ça va me prendre bien 2 ans, je dirais. Et à partir de maintenant.
C'est déjà signé ?
Ah non, pas du tout, parce que je suis encore en pleine phase de découpage, donc j'ai pas encore présenté ça à Glénat. Ils me veulent sur d'autres projets, on s'entend très très bien. Et j'ai pas spécialement d'autres expériences personnelles avec d'autres maisons d'édition, mais c'est vraiment une vraie maison, quoi. Il y a une humanité, donc il y a un très bon dialogue. J'ai pas de raison particulière d'aller ailleurs.
Et est-ce qu'on peut savoir de quoi ça a parlé ?
En fait, ça... Autant le bleu prenait la forme d'un journal et donc d'une autobiographie qui n'était pas la mienne, mais celle de l'héroïne Clémentine, autant ce prochain livre prendrait la forme du mythe. Donc je suis très penchée là sur des lectures philosophiques, anthropologiques, Lévi-Strauss, René Girard. Il y a beaucoup de choses fascinantes que je suis en train de déplucher en ce moment pour respecter justement la grammaire du mythe, mais ce sera dans l'univers du rock contemporain et c'est centré sur un personnage de nouveau et c'est une descente aux enfers de ce personnage là.
Très bien, on a hâte de voir.
Je sais pas si c'est assez clair.
Je crois. Après, il faut rentrer dans le détail, mais c'est pas.
Mais je pourrais. Non, c'est soit j'amène mon découpage, soit je.
La prochaine fois. On va passer à Lucille. Alors, Lucille, on va commencer par la sortie collective, et puis après, on parlera de ton album. Donc, le nouvel album sorti, dans lequel tu as fait quelques pages, chez Dupuis, qui s'appelle « Comment je me suis fait plaquer ?» et « Autre histoire d'amour extra et ordinaire ». Important d'insister sur « Autre histoire d'amour extraordinaire », puisque finalement, c'est pas un album sur la rupture, il y a des histoires de rupture, mais c'est surtout des histoires d'amour. aussi. Il y en a une qui est particulièrement farfelue, qui est celle de Vincent Coe, qui parle d'une histoire d'amour entre un savant fou et ses robots. Et Lucille a fait des pages sur la jalousie, une histoire de jaloux, J-A-loup comme un loup. Et voilà, je pense que c'est vraiment des superbes pages, sans très peu de texte. Peut-être expliquer un petit peu ta démarche, que ça raconte.
Bah en fait, c'est on va parler après de l'autre album, mais tout ce que j'ai fait moi en bande dessinée, par manque de confiance en moi et parce que aussi j'ai pas fait des études de bande dessinée, donc j'ai pas réfléchi à l'avance à vraiment ce que je voulais raconter, etc. C'était plus une démarche. On est plus venu me chercher en me commandant des choses en fait. Et là, pour la première fois, même s'il y avait le thème de l'amour. On m'a dit, c'est un album collectif, donc tu choisis le nombre de pages, c'est un format court, et tu proposes ce que tu veux. Et du coup, c'était très bien pour essayer une première fois de proposer ce que je fais d'habitude. C'est, ça se passe beaucoup dans les dialogues, c'est des gags en une page, il faut que le gag tombe en fin de page pour que ça puisse être mis dans des magazines, et puis qu'on puisse comprendre, même si on lit qu'une seule page, qui sont les personnages, etc. Oui. C'est plein de contraintes. Là, je me suis dit, bon, d'habitude, je fais des choses, ça se passe en ville, avec des dialogues. Là, je vais me mettre en pleine nature et avec le moins de texte possible pour faire confiance à mon dessin, en fait. Pour que le maximum de choses passe que par le graphisme, parce que le dessin peut expliquer, peut rendre beaucoup de choses qui ne passent pas par le texte, parce que c'est... voilà. C'est ce que je devais dire.
Si tu veux.
Voilà, donc là, c'est une histoire de jalousie. Ouais.
Voilà, donc là, c'est la rencontre entre le personnage féminin et le loup dans une soirée, dans une forêt. Voilà. Et donc, ils vont se rapprocher. Une phase de rapprochement, de passion. Et puis ensuite, bah, la jalousie qui va se manifester avec, par exemple, le loup qui déchiquette tous les petits papillons qui peuvent tourner autour du personnage féminin. Ou qui essaye d'attraper les reflets de petits poissons qui s'approchent du personnage. Donc, des métaphores, mais de très très belles pages en couleur directe que je vous invite à aller regarder sur papier parce que ça rendra beaucoup mieux que sur l'écran là qui manque un petit peu de vivacité dans les couleurs. Alors ça, c'est le collectif. Et puis, il y a un autre album qui est né, ça, à l'origine, qui est né dans la revue Kramix.
Mais oui, alors, en fait, c'est marrant parce que celui-là sort dans une semaine, mais finalement, pour moi, celui avec le loup est plus récent. Là, c'est vraiment dans la droite lignée de ce que je m'étais dit au début. Je veux plus faire de BD, je veux plus faire de BD. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un, et moi, je fonctionne beaucoup à l'affectif, aux rencontres, etc. Et qui était très chouette, et qui m'a dit, je fais un magazine de bande dessinée, propose-nous quelque chose, etc. Et donc là sont nés les personnages de Bretzel et Baba. Et alors c'est marrant parce que ça parle aussi, en fait c'est un peu le même thème que le bleu est une couleur chaude, mais alors dans une ambiance complètement différente. Quoi.
Je savais qu'on avait des choses en commun.
Voilà, donc c'est deux personnages qui évoluent ensemble dans un salon de thé. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, la BD pour filles, les BD pour filles, je vais leur en donner. Mais en biaisant le jeu, en fait. Donc voilà, je me suis dit, je les mets dans un salon de thé, c'est des collègues, les personnages principaux travaillent ensemble. Et puis, elles sont collègues, elles sont amies. Et puis, l'une d'entre elles, finalement, on se demande si elle n'a pas d'autre chose que de l'amitié pour sa collègue. Mais c'est tout dans une ambiance. Voilà. Encore une fois, la contrainte, c'était qu'il y ait des gags en une page, etc. Donc, c'est du divertissement. Mais je pense, peut-être Julie sera d'accord avec moi, mais qu'en effet, sans faire de militantisme, on peut banaliser des choses. Et puis, les personnages peuvent être homosexuels sans que ça devienne quelque chose de. Enfin, voilà, on peut en parler de millions de façons, en fait. Donc. Voilà, c'est pas obligé de faire quelque chose de très sérieux. Le faire de passer par la comédie, ça peut être aussi un moyen de banaliser. Voilà.
En sachant que Kramix, c'est une revue dont le premier numéro était dédié aux filles. que la plupart des filles qui étaient dedans ne voulaient pas faire un truc spécial fille. Donc par exemple, Pénélope a fait la couverture et au lieu de la faire rose, elle l'a fait orange fluo avec des filles qui portaient des moustaches, histoire de décaler la chose, mais que le magazine n'a duré que 5 ou 6 numéros.
Bah, en fait, le magazine avait un thème à chaque fois. Ouais. Et le premier magazine, c'était voilà, les filles. Et après, ça a duré 6 numéros, ouais. Mais ça ne rapportait pas d'argent. En fait, c'était plus pour un laboratoire... Parce que bon, le Lombard avait une image un peu poussiéreuse, un peu. Et donc, ils ont cherché à renouveler leurs auteurs, à avoir un laboratoire de jeunes auteurs, mais ils savaient qu'ils ne feraient pas d'argent dessus. Et puis, au bout d'un moment, bon, c'était plus tenable, donc ils ont arrêté le magazine. Mais...
Et donc, il y a eu 6 ou 7 planches publiées dans le magazine.
Je ne sais pas combien il y a eu de planches publiées dans le magazine, en fait.
Enfin, tout ça, c'est de l'inédit, en fait. Ce qui sort, ça sort la semaine prochaine.
Ça sort la semaine prochaine, ouais. Mais en fait, au début, ils m'avaient commandé une page, et puis je leur ai fait des esquisses, puis finalement, ils m'ont pris toutes mes esquisses, puis finalement, ils m'ont mis dans le magazine d'après, où il n'y avait pas seulement des filles, et puis finalement, on a signé pour un album, c'est fait comme ça. Je n'avais pas une idée d'album dès le départ, en fait. C'est devenu un projet d'album, par exemple.
Donc 46 pages.
54. Je me souviens plus, je sais pas.
Bref, beaucoup d'inédits. Et donc, le prochain projet qui sortira chez un éditeur qu'on ne va pas citer.
Oui. Prochain projet
donc,
chez un éditeur.
Donc ça n'a pas avant l'année prochaine.
Non.
Il parlera de quoi?
Bah, au départ, quand cet éditeur, quand il ne sera pas contacté, je ne savais pas trop quoi proposer. Il y avait quelque chose dont je savais parler, parce que je l'avais expérimenté sur mon blog, et je savais que ça plaisait, que ça faisait écho chez plein de monde. C'était les galères amoureuses, en fait. Et donc j'avais fait un projet là-dessus, j'avais inventé des personnages... pour voilà, pour parler de ça, là, rechercher l'amour, la vision hyper romantique qu'on a de l'amour, et puis après l'histoire de drague pourrie, etc. Bon, voilà. Et puis un an s'est passé parce que j'avais d'autres choses à faire en cours de route, et moi je me suis plus du tout sentie de raconter ça parce que aussi j'avais peur d'entrer dans un cliché de jeune trentenaire fille qui fait de la BD, et donc on va parler des mecs et gnagnagna et tout ça, donc j'étais super mal à l'aise, et finalement ça parlera pas de ça, on garde les mêmes personnages. Mais j'aimerais beaucoup parler, donc c'est ce que je commence à faire pour le prochain album, de l'entrée dans la vie active. Donc je sais pas si parmi vous il y a pas des gens qui sont étudiants encore, mais voilà, moi quand j'étais étudiante, j'avais le dessin comme envie forte, j'avais beaucoup d'appréhension sur comment gagner de l'argent, et j'avais aussi des idéaux voilà, écologiques, éthiques, sociaux, etc. Et puis finalement, en se frottant à la vie active, eh ben, on voit autour de soi et on voit avec soi-même quelles concessions on est prêt à faire pour gagner sa vie, quoi. Et donc je trouve que c'est intéressant d'en parler avec bon, chacun qui fait ses choix, qui les petits boulots, qui dépendent de ses parents encore pendant longtemps, qui s'inscrira en polonais à la fac pour aller faire un stage dans le marketing alors que ça n'a rien à voir, mais parce que pour avoir des stages, enfin bon, voilà, je trouve ça assez... voilà, j'espère que je vais réussir à...
Donc à voir l'année prochaine, en même temps que les prochains albums de Julie, le film de Pénélope, enfin on verra tout ça. Est-ce qu'on va passer aux questions de la salle, si vous avez des questions à poser sur ben voilà, la bande dessinée sur le web, les albums, tout ce qu'on a pu voir. Ne soyez pas timides, elles sont très gentilles. Ah, on a une là.
Rebonsoir donc. En fait, moi j'avais une question concernant le droit. Je voulais savoir si vous protégiez vos œuvres, parce que je sais qu'il y a eu des soucis de plagiat, etc., ou alors des dessins qui ont été repris et utilisés à d'autres fins, etc. Et est-ce que vous passez par un organisme particulier ou pas, ou enfin voilà.
En l'occurrence, nos albums sont protégés. Dans le cadre des signatures de nos contrats avec nos éditeurs, voilà, de toute manière. Et après, pour le blog, on n'a aucun regard, en fait. Ça peut être, enfin, c'est vrai qu'il y a toujours un copyright, c'est une question de droit moral, mais il n'y a aucune protection réelle qui existe. Moi, je sais que j'ai déjà vu des dessins voilà, sur d'autres sites ou repris, où des fois, on a quand même l'amabilité de me demander, mais c'est le souci d'Internet, c'est que... C'est qu'on n'est pas tellement protégé, en fait.
Oui, moi, j'étais souvent étonnée, en travaillant sur les blogs, de voir des gens qui font des choses avec, en filigrane, leur nom, en gros, sur l'image. Je me disais, bon, quel monde de parano, quoi. Vraiment, sauf que c'est pas toujours sur les meilleures choses, donc voilà. Mais c'est vrai que là, je me suis syndiquée il n'y a pas longtemps, parce que j'ai pas mal de problème comme ça. Un jour, j'étais à Berlin et un copain rencontré à Berlin qui me dit « Ah, t'as fait un dessin pour une chaîne dans une émission de foot ?» Donc je pense qu'ils se sont dit que je ne verrais jamais qu'ils avaient réutilisé mon dessin parce que c'était, enfin, c'est improbable que j'aille regarder les émissions de foot. Mais en effet, voilà, il y a une émission de foot qui a repris un de mes dessins qui revient, sans mentir, une douzaine de fois dans l'émission. Voilà, il y a des choses comme ça, où une fois, un jour, par narcissisme, j'ai mis mon nom dans Google, et puis je suis tombée sur le site de Orange. J'ai vu un dessin à moi qui avait été repris pour des housses d'iPhone. Voilà, je n'étais absolument pas au courant. Enfin bon. Là, voilà, pendant longtemps, j'ai laissé courir, parce que vraiment, moi, je ne pense pas être complètement idiote, et j'ai fait des études littéraires, etc. Mais dès qu'il s'agit de contrats, d'administration, j'y vois de flou, j'ai une migraine ophtalmique, je deviens complètement débile, donc j'avais un peu laissé courir ça, et puis c'est vrai que là, je me suis dit quand même, c'est idiot, s'il y a de l'argent, c'est des gens qui se font de l'argent avec mes dessins, pour des choses qui ne me tiennent pas à cœur en plus, parce que c'est vrai que quand on me demande pour un site qui n'a pas d'argent, mais dont la cause me tient à cœur, je donne mes dessins assez volontiers malgré tout. Là, bon, c'est des gens qui font du pognon avec mes dessins. Donc je me suis syndiquée, il existe un syndicat des auteurs qui s'appelle le SNAC, et pour qu'on me conseille, ils ont
C'est un très très bon interlocuteur.
C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Et puis je crois que c'est important de le faire, de se fédérer un peu, et de, voilà. Donc, je ne peux pas vraiment te répondre là sur ce qui va m'arriver, sur est-ce que c'est légitime ou pas de demander de l'argent, de faire des poursuites, etc. Mais je pense qu'ils vont me donner des conseils, ouais, là-dessus.
Il y a un point qui est important, c'est que bon, sur Internet, il y a ce qu'on appelle le fair use, c'est-à-dire le fait de pouvoir réutiliser un dessin, tout ça, pour illustrer un article, ou tout simplement pour illustrer un article qui parlerait des auteurs. Ça n'empêche qu'on est censé mettre un copyright et mettre la source. La seule chose, c'est que le droit de citation qui est utilisé par plein de gens n'existe pas pour les œuvres d'art. Parce qu'en fait, à partir du moment où on prend une œuvre d'art et si on en prend un extrait ou si on prend une photo d'un tableau et qu'on la met, on change la forme dans laquelle elle a été pensée. Un tableau n'a pas été pensé pour être mis en photo. Donc à partir de là, on touche au droit moral de l'auteur. Il y a une tolérance qui est liée au fait que bah, finalement, c'est quand même bien quand un journaliste parle de vous, s'il vous crédite, ainsi de suite. Là où ça devient attaquable, c'est si la personne exploite l'œuvre pour en gagner de l'argent ou si la personne s'approprie l'œuvre. Et ça, on le voit souvent chez des jeunes dessinateurs ou des gens qui font des études d'art, qui démarrent et puis ils n'ont pas trop d'inspiration pour un cours ou un rendu, ils vont aller voir sur un blog, ah ça c'est une bonne idée, ils vont le refaire tant bien que mal, parfois ils vont juste changer les couleurs, et on le retrouve sur leur ultrabook, ça c'est là où c'est attaquable, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de protection très ferme sur ce qui est propulsé sur Internet, et surtout le risque c'est que vous ne voyez jamais ce qui a été fait avec votre dessin quand il a été réutilisé à Taïwan ou autre. Et il y a un site anglais qui s'appelle You Thought We Wouldn't Notice, donc vous pensez qu'on s'en rendrait pas compte, qui est en fait un site où les internautes ramènent les copies, et on se rend compte que même des artistes très connus se retrouvent sur des t-shirts au fin fond du monde ou parfois dans la ville juste à côté, et on voit l'avant et l'après, le blog dont c'est issu et le t-shirt. La meilleure manière effectivement, c'est d'essayer de voir si ça vaut le coup de... Parfois il suffit d'une lettre de recommander de l'auteur, mais ça nécessite de savoir un peu à formuler pour que les gens reviennent vers vous en vous proposant de l'argent. Puis des fois, ça nécessite de prendre un avocat, mais c'est une procédure un peu plus lourde, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Bah, écoutez, je crois qu'on va conclure. On est à peu près dans les temps. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous auriez envie de parler ou quelque chose que vous avez envie de dire à la foule avant qu'on conclue? Une question que je n'aurais pas posée, une idée qu'ils doivent garder.
Moi, tu me prends dépourvu là, non? Il n'y a rien qui me vient.
Lucille, bon, allez voir leur blog, lisez leur BD. Je pense que si on a réussi notre coup, vous vous rendez compte que Les artistes qui aujourd'hui utilisent tous les médias sont un peu plus riches que des blogueurs qui seraient des gens qui ont juste un blog, et inversement que l'un ne fait pas la même chose que l'autre. On vous remercie d'être là.
Et puis... Oui, peut-être une dernière chose que je voudrais dire sur le coup de la peur de qu'on nous vole nos dessins, etc. Moi, c'est quelque chose que j'avais, qui m'avait jamais traversé l'esprit, et là, donc, c'est arrivé un peu. Mais au regard de tout ce que ça m'a apporté, ce support, franchement, de positif, c'est... Finalement, c'est pas si grave, quoi, je trouve. Enfin, c'est vraiment un support. Et même moi, je me trouve très frileuse par rapport à l'utilisation du blog. Parce que là, Pénélope nous a parlé de la possibilité de scroller, qui est très différente de tourner les pages. Et il y aurait plein de choses à imaginer, je pense, qui sont différentes, des plaisirs différents, de la manière différente de raconter des histoires, etc., par les supports numériques. Et je comprends pas très bien les gens qui ont peur de la fin du livre, et les gens qui sont complètement réfractaires. Enfin, je trouve que c'est des choses qui s'enrichissent, qui se nourrissent plus que nous parasitent, quoi. Voilà.
Prochain débat, la BD numérique fera-t-elle disparaître le livre ? Mais c'est pas ce soir, sinon on y est jusqu'à demain. Merci à vous, passez une bonne soirée.
Merci.